pour Paris, vous avez cette légitimité du piéton de Paris, en somme.
Oui, c'est bien un livre que j'ai écrit avec mes pieds.
Voilà, c'est ce que vous répétez souvent.
Oui, mais j'aime bien cette expression, parce que je trouve qu'elle me va bien. C'est un livre que j'ai écrit à partir de mes observations et de la surface des choses. Moi, je prends les choses un peu à l'envers par rapport aux historiens. C'est que je ne m'intéresse pas aux causes, je m'intéresse d'avant. Enfin, je m'intéresse. Je suis d'abord subjugué par les conséquences, par la beauté et l'imprévu qui m'entoure. Et à partir de cet imprévu, de cette beauté, j'essaie de comprendre, de lever le voile, de percer le mystère et de savoir ce qui se cache derrière et de savoir pourquoi.
Alors, quand on ouvre Métronome 2, c'est pas un livre.
C'est un livre à lire avec des semelles.
Oui. Mais ce n'est pas non plus un guide de promenade. Je dirais plutôt, ça fait penser à un pop-up. C'est-à-dire, vous l'ouvrez et aussitôt surgissent des lieux, des personnages, des histoires.
Oui, oui.
Il y a un effet assez extraordinaire.
Je vous rejoins là-dessus. J'espère que c'est un livre qui donnera déjà donc envie d'en savoir plus et puis surtout qui donnera la sensation d'agrémenter, de vivre dans une réalité augmentée. C'est l'expression que j'emploie souvent, mais de faire de nos trajets les plus anecdotiques, les plus quotidiens, une source de merveille et de se rendre compte que, gratuitement, à côté de chez vous, eh bien, il y a des trésors qu'on méconnaît ou qu'on pourrait avoir oubliés. Et pourtant, ils sont là. Et voilà. Et Paris, surtout en ce moment, a grand besoin d'être réenchanté. C'est ce que j'ai de faire pour mon travail.
Oui. Alors, vous partez des petits signes concrets que l'on peut justement voir ou toucher, hein, ou sur lesquels on peut marcher avec ses pieds, comme vous disiez à l'instant. Mais quelquefois, il n'y a rien de visible. Et d'ailleurs, vous avez des commentaires à propos de l'archéologie préventive, des commentaires un peu ambivalents, on va dire, à la
c'est
fois.
Ce n'est pas ça, c'est pas de leur faute. L'archéologie préventive, c'est souvent, on déniche un trésor, et comme il y a un chantier, il y a une commande, quelque chose comme ça, ils doivent tout laisser d'une manière déjà très brutale, très rapide. Souvent déjà, ils passent après coup. Il y a déjà des pelleteuses et des bulldozers qui ont dégommé toutes les strates donc d'enfouissement des vestiges. Et eux, ils ont les miettes du gâteau, en quelque sorte. Et bien souvent, malheureusement, leur avis compte peu et pas assez pour préserver des trésors qui ont une valeur inestimable, puisqu'ils sont les témoins de notre patrimoine. Et j'ai rien contre l'archéologie préventive, au contraire, je trouve que ce sont des chercheurs des chercheurs d'or, mais souvent on les prive de leur récompense. Oui, je me suis pris un petit café, merci.
Alors, pour continuer sur votre méthode de travail, vous avez cherché à voir les endroits dont vous parliez, les objets dont vous parliez, et quelquefois, justement, au nom de la conservation de ces lieux ou de ces objets, on ne vous a pas autorisé, ou on n'autorise pas le public non plus, encore moins évidemment qu'un écrivain d'histoire, à accéder à ces vestiges. Et du coup, est-ce que ce livre a été écrit aussi pour rendre quelques plus accessible au grand public, ce genre de traces?
En tout cas, c'est pour alerter, et je suis convaincu que c'est grâce à nous tous qu'on pourra sanctuariser le mieux possible notre patrimoine collectif. Si au nom de la sécurité et de la sauvegarde, on met quelque chose en réserve, ou on privatise, ou on cloisonne, on enferme, moi, je suis convaincu que c'est le meilleur, et j'en fais l'expérience de par les choses qui ont pu disparaître, être abîmées ou être oubliées, je suis convaincu que c'est le meilleur moyen de les perdre. Donc, quand on vous dit on va privatiser cet endroit-là parce que les gens ils marchent trop, il y a des dégradations, il y a des gens qui écrivent dessus, il y a des graffitis, ça se nettoie. Enfin, je crois que c'est moins dangereux que la personne qui, au nom du fait qu'il est propriétaire ou que c'est dangereux, qu'il y a un risque, qu'il y a un péril, vous en prive. Et bien là, la mémoire risque de l'oublier, et c'est le meilleur moyen d'en faire ce qu'on veut et de le faire disparaître complètement. Donc je crois qu'au contraire, le fait que ce soit accessible à tous, que ce soit public, que ce soit surtout in situ, là où l'endroit a sa valeur, puisque là où il a acquis, on va dire, là où il a été, où il est devenu digne d'intérêt, c'est incontournable, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut préserver au maximum. Ne pas mettre un truc dans un musée, c'est trop tard, le déraciner, l'arracher, c'est le meilleur moyen de le faire disparaître.
Oui, on voit bien que votre écriture est à l'inverse de la démarche des musées, c'est-à-dire que vous rendez vivant les traces du passé et les personnages.
Non, mais les musées font ça très bien. Je me mets pas en opposition par rapport aux musées. Enfin, attention, faut être très prudent, hein, si vous attaquez dur là. Non, je veux juste dire que la démarche d'aller dans les musées, elle est déjà, c'est déjà une démarche qu'on n'a pas automatiquement. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est dans les musées qu'il y a des trésors encore plus merveilleux que dans notre quotidien. Moi, je veux juste montrer et convaincre les gens que leur histoire, notre histoire, n'est pas lointaine et qu'au contraire, on a rendez-vous avec elle dans n'importe quel de nos déplacements. Donc, ce n'est pas forcément en allant dans une bibliothèque, en consultant un livre, un vieux grimoire, ou en allant dans un musée, qu'on va être connecté avec l'histoire. Non, ce n'est pas vrai. L'histoire, elle est ici, chez Mola. Il y a des histoires merveilleuses autour de ce bâtiment. Elle est dans la rue Sainte-Catherine. Elle est partout. Elle est partout, l'histoire. Et certainement pas seulement dans les musées, dans les livres, heureusement.
Alors oui, ce livre et les livres précédents aussi, c'était fait de donner envie de lire des livres d'histoire.
Oui.
Alors par rapport justement à ce domaine historique, vous ne vous prenez pas pour un historien. Malgré tout, vous appuyez sur des historiens.
Oui.
Vous vous documentez beaucoup. Vous avez mis 5 ans pour écrire le premier métronome.
Au plus.
Ou plus,
cinq ans, une fois qu'on me l'a commandé, mais c'est un livre que j'ai, finalement, ce plaisir que j'ai eu de compulser, de prendre des notes et de retenir des anecdotes sur Paris, je l'ai depuis que j'ai 15 ans. Et quelques.
Et donc, livre après livre, vous êtes aidé par un historien suisse reconnu, dont le nom figure...
Oui, vraiment, qui est mon sparring partner, vraiment voilà. La personne qui a corrigé toutes les erreurs factuelles de date, d'approximation que j'ai pu avoir, qui a vérifié, qui a entrecoupé les sources, qui surtout était mon premier lecteur. Parce que quand vous écrivez quelque chose, c'était mon miroir qui me disait bah, « là, t'es trop lourd, là, c'est surchargé, là, on comprend pas ce que tu veux dire ». Et donc, il a été ouais, comme mon punching ball.
Voilà. Ça n'a pas empêché les lecteurs du premier...
Je l'ai sévèrement massé. Hein. Il est plus pareil depuis qu'il travaille avec moi. Hein. Il n'a plus la même tête. Il a vieilli.
Oui. Donc, Emmanuel Eman, il revient. Donc,
c'est un Suisse. Vous savez, les Suisses ne partent pas vraiment. Ils sont là. Ils sont toujours près de vous. Non, ouais, il est très précieux parce qu'il est très patient avec moi. Et puis, surtout, il prend le temps de me comprendre. Ce qui n'est pas très facile des fois, et je commence même à me dire des fois qu'il comprend mieux ma pensée, et il arrive maintenant, comme il me connaît bien, à devancer ma pensée, savoir ce que je veux précisément écrire, savoir ce que je veux vraiment dire, savoir ce que... Il me connaît très bien, c'est mon ombre portée.
Alors vous dites ça a été votre premier lecteur, mais vous avez eu aussi énormément de lecteurs avec Métronome.
Oui.
Ça a été un best-seller et je pense que l'éditeur Michel Lafond est enchanté.
Ah bah il est ravi, il a déménagé, il s'est acheté un petit vignoble dans le Bordelais. Non, il va bien Michel.
Et d'ailleurs, ça vous a aussi bien réussi, j'imagine, ce niveau de vente, bien sûr.
Non, je suis très content. Et honnêtement, au-delà du fait que c'est vrai que ça m'a rapporté de l'argent et que ça m'a donné une autre qualification, parce que c'est vrai que maintenant, on me considère plus comme un écrivain que comme un comédien par moment, et je le reproche, je le déplore, parce que moi, je suis avant tout comédien et je raconte des histoires, donc que ce soit avec la plume ou que ce soit avec la langue et mon travail de composition d'acteur, j'ai la même ambition, en tout cas, qui est de raconter des histoires aux gens, de les divertir, de les captiver et de leur faire du bien, quoi. Voilà, c'est notre rôle d'acteur, on cherche à séduire, non pas pour se sentir mieux, mais je pense qu'on cherche à séduire, surtout pour permettre aux autres de se sentir mieux et de se sentir bien.
Oui, c'est un ouvrage qui fait plaisir, qui a une dimension ludique, qui n'a pas de prétention érudite, même s'il y a quand même des débats d'historiens qui sont souvent présentés et beaucoup, beaucoup de questionnements. Vous disiez tout à l'heure l'observation concrète, mais il y a aussi le questionnement, la curiosité. Et je pense que ça vient de loin, cette curiosité. C'est l'enquête policière aussi qui vous habitait déjà gamin.
Oui, je voulais être policier, moi. Et on me dit, mais c'est dingue, tu veux être policier, mais pourquoi? Mais regardez le nombre de séries de télé, d'enquêtes et de policiers qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais être policier, moi. C'était pour attraper non pas attraper les méchants, mais surtout résoudre une énigme, quoi. Essayer de faire par un faisceau d'hypothèses, de répondre à des équations et de faire travailler, pas mon intelligence, mais faire travailler mon esprit, quoi, pour avancer comme dans un rébus ou dans un mot fléché.
Voilà. Et on voit bien cette démarche d'enquête et de curiosité à chaque page, pratiquement, hein, de Métronome 2, qui alors a une structure d'itinéraire,
oui.
Pour le coup.
Oui, on est moins dans une version, dans une approche transversale où je raconte une grande histoire où finalement Paris comme le métro ne sont qu'un prétexte pour raconter l'histoire de France, qui pour moi est la plus belle des histoires puisque c'est la nôtre. Et qu'on soit ici depuis 5 minutes ou depuis toujours, on en est les jouisseurs et les héritiers puisqu'on parle la langue et qu'on vit dans leur géographie. Donc nos aïeux, quels qu'ils soient, il n'y a pas à les sélectionner, en dire celui-là, c'est pas vraiment... Non, tous, ils nous ont fabriqués, nous ont engendrés puisqu'on vit dans leur monde. Et si on est déterminé, c'est par eux. Et donc ça me passionne, mais je l'ai donc raconté dans Métronome. Et ce Métronome 2, c'est plus une, une balade, c'est plus un guide, c'est vraiment plus un divertissement dans les rues de Paris pour m'attacher à un Paris plus intime, celui des Parisiens, comme je disais. La rue, c'est le contrat de mariage entre les hommes et leur terre. Donc je prends les rues pour m'intéresser un peu plus exclusivement et strictement aux Parisiens, voir qui ils ont été, souvent des anonymes, des quidam, qui pourtant ont participé à la grande histoire de la ville, puisque c'est par eux que j'en ai découvert certaines aspérités, certains aspects.
Alors, nous sommes dans la région de Montaigne, et il y a quelque chose, justement, de Prime Sautier dans cet ouvrage.
Il était où, son moulin ? À l'Aréole ? La Brède ? Je ne sais jamais.
La Brède. C'est Montesquieu.
Ah, c'est Montesquieu. La Montaigne, il était où ?
C'est un peu plus loin, Montaigne. Oui. La librairie de Montaigne, la tour de
Montaigne.
Vous voyez
que je ne pourrais pas écrire sur Bordeaux.
Et donc, on retrouve ce côté de hasard de lecture, de hasard de promenade, et aussi de hasard de sélection, parce que vous suivez les rues, mais vous sélectionnez tel numéro ou tel numéro, et on vous suit, bien sûr, on est embarqué dans cette promenade, et en même temps, on se demande sur quels critères vous avez fait vos choix.
Alors, tout est parti de l'observation. J'ai eu envie, comme d'habitude, parce que moi, c'est pour ça que le livre s'appelle Métronome. Le métronome 1, c'était une manière de raconter l'histoire à travers le métro. Donc, il y avait un petit jeu de mots entre métro qui nomme l'histoire. Mais c'était aussi et surtout parce que le métronome est un outil, un instrument de musique qui permet de donner le tempo et de battre la mesure. Et Métronome 2 garde cet objectif-là, cette ambition-là de battre la mesure, de rythmer le temps. Et donc d'avoir une chronologie, et cette chronologie sera au fil des rues. Et j'ai essayé de trouver le livre qui n'existait pas dans ma bibliothèque et de raconter un siècle de Paris, remonter les siècles par rue, comme un fil d'Ariane, vous voyez, 19e siècle, une rue, 18e siècle, une rue, 17e siècle, une rue. Ça, je crois que c'est assez singulier et original. Donc j'étais heureux de me dire, voilà, ça répond aux critères du métronome, à savoir je vais raconter et remonter l'histoire avec les rues. Mais il ne s'agit pas de rester emprisonné dans l'histoire et dans les siècles, je l'ai déjà fait avec métronome. Donc ensuite, j'ai tout simplement pris la rue, et en fonction de ce que je voyais, de l'observation, des vestiges, des surprises que j'ai pu avoir et des anecdotes que j'ai pu lire dans tel ou tel livre, je me suis dit, bah tiens, voilà, là, il y a une petite pépite, une petite pierre sur mon parcours qui mérite d'être recensé pour mieux apprécier la ville. Voilà, c'est simplement ce qui m'a un peu excité, ce qui m'a un peu surpris, ce qui m'a donné du fil à retordre parfois, parce qu'il y a des vestiges qui ne se donnent pas à voir comme ça, où il y a des anecdotes qui sont par moments plus disputées, plus discutées, et c'est quand elles ont été un peu rétives que généralement je les ai plus volontiers placées dans le livre.
Oui, la notion de surprise a beaucoup de sens aussi pour le lecteur, puisque on va vers l'inattendu et quelquefois aussi à l'inverse de choses qu'on croyait connaître. Par exemple, l'idée que les premiers grands magasins viennent de la famille Boussicot, alors que
en
1784, vous avez déniché donc le tapis rouge,
rue du Faubourg Saint-Martin,
avant, voilà, et dans un autre quartier. Donc voilà,
on a encore le vestige, parce qu'il ne s'agit pas de référencer, de recenser une anecdote comme ça et de dire, bah, attendez, je vais être original.
Il y a des verrières.
Il y a encore le magasin, il est encore là. Quand on rentre, on voit encore les escaliers, on est dans des escaliers du 18e siècle. Donc s'imaginer, pas au commerce de masse, mais en tout cas à la grande consommation, presque les ancêtres de la grande distribution qui sont déjà là au 18e siècle, avant la Révolution, avec cette double volute d'escaliers qui partent vers un premier étage. Aujourd'hui, c'est des bâtiments privés, mais c'est dingue de se dire ça, quoi. Et c'est assez surprenant. On est au 18e siècle. Au siècle des Lumières, et la consommation de masse est déjà présente.
Le prêt-à-porter, en tout cas.
Oui.
En tout cas, c'est vrai que ça donne envie de préserver ces vestiges qui sont souvent inaperçus et donc pas protégés ou pas...
C'est ce qui les rend encore plus précieux.
Voilà.
C'est ce qui les rend encore plus précieux, de les savoir fragiles, et que finalement, leur sauvegarde ne viendra que de nous, en le faisant rayonner, en le faisant savoir, et en montrant, en éduquant le regard, en disant, attendez, cet endroit-là, vous ne pouvez pas le démolir comme ça. C'est un endroit où il s'est passé ça, où il s'est passé ça, et c'est des choses qui ont été fondatrices, ou en tout cas qui sont assez passionnantes à vivre et à voir. En ce moment, je défends, avec un collectif, la dernière ferme de Paris, qui est la dernière trace de ruralité dans la ville. Et la ferme, elle n'a rien d'exceptionnel en elle-même. C'est une ferme 19e, quand on en voit partout à la campagne. Sauf que là, elle est en plein cœur de Paris, juste à côté du RER, rue d'Atombissoire. Et elle a été à moitié démolie en 2012. Aujourd'hui, heureusement, c'est à nouveau gelé. Et il reste la moitié du bâtiment qui est encore debout. Et c'est la ferme de Victor Hugo, vous savez, dans Les Misérables. C'est la ferme de Montfermeil, quoi. Donc, se retrouver nez à nez avec ça, c'est un passeport pour le passé, un passeport pour le voyage. Pas seulement pour le passé, genre c'était mieux avant. Simplement, genre pour vous dire, voilà, c'était comme ça. Et ça fait voyager. C'était l'endroit où, pendant l'occupation, c'est le dernier endroit où on trouvait du lait, où il y avait des vaches qui donnaient du lait aux Parisiens de manière extrêmement rationnée, mais il y avait encore donc une trace de ruralité là-bas. C'est passionnant, et il ne faut pas que ça disparaisse.
Tout à fait. Et il y a aussi un rythme donné par les encadrés. Et souvent, dans ces encadrés, il y a un focus sur une anecdote ou alors sur un point de vocabulaire. Cette attention à la langue aussi, elle est très intéressante. Vous avez choisi des mots du quartier.
Oui, oui, j'ai voulu à chaque fois... En fait, au départ, c'était un petit moyen de m'éloigner du parcours. Parce qu'au début, je voulais stricto sensu vraiment rester sur la rue. Je voulais pas qu'on s'en écarte, je voulais pas faire un inventaire, un espèce de patchwork où je chope dans mes filets. Je voulais respecter une logique. On est sur la rue, on s'en écarte pas. Mais après, il y avait quand même des anecdotes tellement amusantes ou des choses tellement incontournables que j'ai commencé à me dire comment je peux trouver un moyen de les raconter en m'éloignant de la rue. Donc ça a été le procédé de mettre des petits encadrés avec chaque fois des génériques en disant bon ok là je vais raconter le fait divers important dans le quartier, donc on n'est plus sur la rue, on est dans le quartier, je vais raconter la naissance de tel mot ou de tel petit métier dans le quartier, donc ça faisait d'autres entrées qui me permettaient de sortir de mon schéma mais tout en restant dans une espèce de métronome.
Oui, tout à fait. Le mot atelier, par exemple, il est très intéressant, la description que vous en faites, à la fois étymologique et puis aussi historique, puisque Bernard Palissy symbolise finalement la naissance de l'atelier à ouais. partir du bois. Et puis,
parce qu'il avait besoin de beaucoup d'espace, puisque évidemment, pour faire toute la céramique, toute la faïence, il fallait brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois, donc il avait besoin de beaucoup d'espace, d'entrepôts, et c'est devenu des ateliers. Et en plus, c'est amusant de se dire que cet ancêtre des ateliers, enfin des bâtiments industriel presque, c'est au cœur du 6e arrondissement quoi, de Saint-Germain-des-Prés. C'est au niveau de la rue Bernard Palissy, de la rue du Dragon, de la rue de l'Éperon, donc dans un quartier ultra surdensitaire. S'imaginer qu'il y avait des bâtiments industriels à l'époque, c'est marrant. Comme de se dire qu'aujourd'hui, la dernière industrie de Paris, ça j'ai appris ça récemment, c'est pas dans mon livre, c'est la Monnaie de Paris. Vous voyez où c'est la Monnaie de Paris sur les quais? Eh bien, c'est la dernière, c'est la plus grosse forge. Déjà, il y a encore une forge dans Paris et c'est la plus grosse industrie, usine de Paris, en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, juste à côté des Beaux-Arts et du Café de Flore, et ben vous avez encore des ouvriers qui forgent pour fabriquer les pièces et d'autres pièces de métal et d'orfèvrerie. Voilà, c'est assez dingue de se dire ça.
Un autre aspect aussi de votre goût pour les enquêtes policières, c'est des faits divers sanglants. Il y en a quand même pas mal dans Métronome 2.
Oui, puis c'est agréable quand on le lit dans son livre. Vous savez,
on peut jouer à se faire peur. Il y a des ogresses qui tuent des bébés en série.
Il y en a plusieurs. Je raconte des grandes histoires de criminels aussi, parce que c'est pas désagréable de reprendre le fil de ces rues-là en se disant que peut-être leur ombre maléfique plane au-dessus de nos têtes. Donc c'est... Paris est fait pour ça, vous savez, moi j'aime le Paris en clair-obscur de Brassailles, vous savez, vous connaissez ce photographe qui peint un Paris toujours un peu, pas sanguinolent, mais un noir et blanc où il y a toujours une l'humidité au sol, donc c'est un Paris qui transpire, qui suinte un peu avec un clair-obscur, avec un brouillard, donc on est un peu inquiet, le Paris inquiétant fait aussi partie du charme de Paris, de cette espèce de visage qu'on a, de vision qu'on a d'un Paris où il n'y a pas que des... c'est pas la bibliothèque rose, quoi.
Oui, c'est très souvent macabre, même, parce qu'il y a des anecdotes aussi sur la morgue et l'attrait des Parisiens aussi.
Oui, qui se visitaient, la morgue se voilà. visitait. Ouais. Mais encore aujourd'hui, quand vous passez à Paris, vous savez, sur les quais, qu'Anne Hidalgo avait une riche idée d'interdire aux voitures. Ma femme qui est là va s'insurger parce qu'elle est pour. Moi, je suis contre. Mais vous passez à côté de l'Institut médico-légal. Et l'Institut médico-légal, donc juste à côté en face de la gare d'Austerlitz et près de la gare de Lyon, et bien c'est l'endroit où tous les morts de la capitale transitent par là. Et c'était un endroit, enfin cet endroit-là n'est pas visité, mais c'est toujours un endroit qui, quand on passe devant, vous glace le sang et en même temps est un peu attirant, parce que c'est évidemment l'énigme suprême.
Et quand vous racontez qu'à un moment, les morts étaient mis en vitrine pour pouvoir être identifiés, ouais. etc., pendant plusieurs jours... Bon, c'est quand même très impressionnant ce genre d'anecdote.
Mais ouais, et puis celle aussi du fer à moulin où j'explique que la morgue a été l'endroit où clandestinement les jeunes apprentis docteurs et médecins et chirurgiens allaient pour disséquer des cadavres discrètement. Là, on est rue vraiment dans le 5e, et ils allaient disséquer des cadavres pour s'entraîner, pour se faire la main. C'était évidemment interdit, mais ils le faisaient. Et il y avait cette odeur de mort aussi qui planait sur tout le quartier, cette odeur méphitique deux siècles après, on se promène, on ne le soupçonne pas, sauf quand on se l'imagine grâce à la lecture et à la lueur de ces informations.
Voilà, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, et quelquefois elles sont un peu reconstituées, un peu brodées peut-être. Quelquefois, elles sont vraiment historiques. Par exemple, l'histoire de la tête de Richelieu et ses mésaventures qui font partie de la grande histoire. Mais là, vous dites Paris intime, donc il s'agit moins de la grande histoire que d'un petit peu Monsieur Tout-le-Monde ou des personnages qui ont peut-être existé, peut-être pas d'ailleurs, mais qui sont un petit peu anonymes ou qui font partie des petites gens. Hein. Et ça, c'est une autre manière aussi d'entrer dans le passé.
Ouais, c'est de raconter comment Paris s'est construite, évidemment, avec de grandes visions. Il y a des grandes visions politiques, de personnes qui ont bouleversé la ville. Mais la légende, la mémoire, l'âme de Paris, la magie de la ville, c'est aussi construite par ces petites légendes urbaines et par ces personnages anonymes qui ont fait et qui ont laissé leur empreinte sur le quartier. Voilà, ça a été des corporations, ça a été les étudiants. Finalement, sont aussi les Parisiens eux-mêmes qui, par leur bouillonnement, ont fabriqué la ville en dehors des grandes visions qu'ont pu avoir ceux qui l'ont dirigée et comment.
Oui. Et intime aussi au sens du ventre de Paris ou des sous-sols de Paris, parce qu'il y a aussi des passages sur les réservoirs, Montsouris.
Et les catacombes et les carrières. C'est vrai que quand on a envie de s'éloigner des sentiers battus et d'aller dans l'inconnu, la première chose qu'on fait à Paris, c'est qu'on descend, quoi. On descend dans ces sous-sols. J'ai eu la chance de rencontrer dans les années 90 un cataphile. Que je cite d'ailleurs avec à chaque fois Gunther, une association gérée par Lazar Kunzmann, qui officiait dans les catacombes et qui faisait évidemment des espèces de réunions clandestines, des boîtes de nuit, des musiques et des autres choses, et qui réparait surtout le patrimoine, mais de manière illégale. Et notamment le Panthéon, je raconte cette anecdote qui est vraiment une histoire vraie, puisqu'ils ont été condamnés à 10 000 euros d'amende après un procès en 2005. Où ils ont réparé le carillon du Panthéon. Pendant 6 mois, ils se sont installés sur le premier étage, vous savez, du Panthéon, il y a une galerie, là, avant les colonnes, et ils se sont mis là pendant 6 mois, et ils ont réparé donc, le carillon avec des ingénieurs, avec des copains à eux, et une fois que c'était réparé, ils sont allés voir le conservateur qui gérait le Panthéon, ils lui ont dit, bon, ben voilà, bonjour monsieur, arrêtez-nous, on a réparé, ça fait 6 mois qu'on occupe les locaux de manière illégale, et on a réparé le carillon, d'ailleurs, la preuve, boum, et ils l'ont fait sonner. Et c'est incroyable, ces gens-là sont magnifiques, quoi. Ils sont superbes parce qu'ils défendent des causes, non pas des causes perdues, mais ils défendent des causes confidentielles et finalement hyper importantes, puisqu'ils sauvegardent un patrimoine qui est en danger, qui est laissé à l'abandon, et il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de moyens pour le défendre. Et eux s'y attellent, voilà, comme les Romains des Bois des pauvres, mais en ce qui concerne l'architecture, le patrimoine.
Ils se mettent dans hors la loi, mais au nom de la loi non écrite, quoi.
Ouais. Et alors ils ont donc été condamnés. Et aux dernières nouvelles, le carillon marche encore très bien 10 ans après.
Et donc.
Ils ont aussi restauré une salle de cinéma sous le palais de Chaillot, qui aujourd'hui est utilisée, mais c'était eux qui ont tout retapé.
Alors, il y a donc ce travail d'enquête, ce plaisir de la découverte, de la surprise. Et il y a aussi la documentation historique avec une longue bibliographie. Hein.
Ah oui, cette fois-ci, j'ai fait une bibliographie.
Oui, très copieuse. Et il y a aussi une direction littéraire, Huguette Mort, qui est citée aussi à la fin de l'ouvrage. Alors, quel a été son rôle dans votre travail?
Alors, c'est le rôle pénible. C'était guillotin. C'est elle qui m'a fait couper beaucoup de choses. Et il y a des choses que je regrette. Il y a des choses dont je ne m'étais pas aperçu. Parce que vous savez, quand vous êtes à 3 jours de la publication d'un livre, généralement, c'est la veille du mois de juillet, là, en plus. Et donc, vous avez envie de partir en vacances. Et elle négocie tout. Elle se bat pied à pied pour vous dire, bah, là, t'es trop long. Là, celle-là, on s'en fiche. Cette anecdote-là. J'avais des anecdotes sur la maison de la radio. En plus, c'est marrant parce que j'ai fait une émission l'autre jour. Sur France Bleu, et le journaliste me dit, il y a peu de choses sur France Bleu, et je fais, mais si, j'ai parlé de la maison de la radio, et je prends mon bouquin, et effectivement l'anecdote a sauté, et je me remémorais pas comment et dans quelles circonstances j'avais fait sauter l'anecdote, et finalement je m'en souviens, c'est que je tenais à une anecdote sur Saint-André-des-Arts au tout début du livre, elle voulait la supprimer, et on se l'est négocié, quoi, voilà. Et c'est ça Huguette Mort, c'est, elle vous monnaie tout, elle vous échange tout, elle vous dit, on garde Saint-André-des-Arts, mais on vire la maison de la radio. Écrire un livre, c'est souvent ne pas trop en dire et savoir refuser de l'information pour pas qu'il y ait trop d'informations, pour rester dans une ligne et dans une singularité. C'est ça qu'elle m'a appris aussi.
Ouais. Alors, à propos de Guillotin et de Guillotine, il a une bonne place aussi dans Métronome 2.
Oui, je raconte la mention.
Voilà, et une mention ironique, page 113-114, puisque c'est Louis XVI lui-même qui a validé l'invention sans savoir qu'il serait l'un des premiers patients du docteur Guillotin.
Oui, il a validé, et surtout, c'est lui qui lui a donné l'idée de ne pas la mettre en arc de cercle, en 2001, mais en biseau. Oui.
Bon, mais les tests avaient été faits, racontez-vous, sur pas mal de moutons.
Oui, et dans la cour du commerce Saint-André, qui se visite aussi. Vous avez, quand vous allez, vous êtes dans le boulevard Saint-Germain, à l'angle de la cour du commerce Saint-André des Arts. Vous connaissez, je pense, c'est un endroit vraiment métro Odéon. Et vous y rentrez, et la première cour était celle. D'un côté, il y avait Marat qui avait son père Duchesne, ou l'ami du peuple, je ne sais plus, son journal. Et de l'autre côté, il y avait Guillotin qui faisait ses expériences sur des moutons, sur le pavé. Et le pavé est encore là, quoi. Donc. Il n'y a qu'à regarder pour essayer de retrouver une trace maculée de sang. On n'en est pas loin, quoi. En tout cas, le pavé est toujours là.
Voilà, et c'est ce que vous faites toucher du doigt presque à la lecture, ce côté, comme je disais au début, pop-up qui surgit du passé de manière très, très vivante, très concrète. Vous avez des dialogues aussi, vous reconstituez des dialogues
oui.
Tels qu'ils ont pu peut-être se jouer. Et là, on reconnaît aussi l'acteur, le travail.
Bah, c'est l'envie d'incarner. Vous savez, moi, comme je suis un passionné d'histoire et donc je ne suis pas un historien, je me permets de me nourrir à deux mamelles qui sont pour moi indispensables pour donner du goût et pour passionner, pour captiver les gens. Pour moi, l'histoire, elle se nourrit d'incarnation et de chronologie. Et c'est pourquoi quand on incarne les choses, quand on a envie de les incarner, donc évidemment qu'on est un peu dans le roman, parce qu'on ne sait pas comment ils parlaient, on ne sait pas comment ils s'exprimaient, on ne va pas se mettre dans leur tête, mais quand on a envie de raconter des histoires, il ne faut pas hésiter à les faire parler pour faire avancer notre récit. C'est, je pense, un bon moyen, un bon système pour leur donner de la vie, pour leur donner de la chair, et puis pour rendre les choses proches de nous, pétillantes, passionnantes, captivantes. Moi, j'ai plein d'adjectifs.
Oui, on vous a comparé à Gavroche récemment et effectivement, on retrouve un ton parlé et cette vélocité de la voix que vous avez toujours et aujourd'hui aussi.
C'est vrai que Gavroche, il meurt.
Et Gavroche, vous en parlez justement.
Oui, bah, il meurt du côté de la rue Saint-Martin et il meurt à côté d'un bas, à peu près à hauteur d'un endroit où il y a encore un bas-relief qui date du XVIIIe siècle. C'est un bas-relief avec une, je ne sais pas si c'est une Pietà, je ne sais plus, une Vierge. Et ça m'amuse d'imaginer Victor Hugo le situer là, son Gavroche, tout près, et au niveau de ce bas-relief, qui lui était donc contemporain de Hugo, certainement pas de Gavroche, puisque c'est un personnage inventé, mais voilà, de se dire que là où il est mort, là où il est donc tombé par terre, le nez dans le ruisseau, il y a encore cette espèce de vierge qui veille sur lui comme un ange gardien, c'est amusant, voilà, c'est une espèce de parallèle, une passerelle d'une évocation qui m'a plu.
Oui, c'est un bas-relief de l'Annonciation, donc peut-être aussi que Victor Hugo annonçait un avenir... Plus social ou plus égalitaire.
Des lendemains qui chantent.
Voilà. Ou qui déchantent. Alors, effectivement, quand on connaît un peu Paris ou certains endroits de Paris, on retrouve à vous lire les lieux qu'on connaît, mais revisités et avec une acuité nouvelle. Par exemple, moi, je connais bien la rue Saint-Jacques parce que j'ai habité rue de la Santé et je suis allée à la Sorbonne 4 fois par jour, aller et revenir 4 fois par jour. Donc, je connais ce trajet, je le ferai les yeux fermés. Mais justement, c'est votre chapitre 1 et on redécouvre cet itinéraire qu'on croyait connaître. On le redécouvre avec beaucoup de fraîcheur. Vous apportez cette fraîcheur dans le parcours, y compris familier.
Ben ouais, j'essaye de surprendre même ceux qui croient connaître, qui pensent connaître comme moi la ville. Moi, j'ai été le premier surpris par plein de choses et c'est ce qui a donc légitimé cette écriture. Mais j'essaye aussi de leur donner du corps à ces rues, quoi, et qu'elles ne viennent pas à un espèce de maillage indifférent. Il y a 5000 rues dans Paris, mais elles n'ont pas toutes le même poids, elles n'ont pas eu toutes le même enjeu, le même rayonnement, la même importance. Vous savez, les rues racontent une histoire et quand on arrive à sélectionner et à sortir finalement les grandes artères, eh bien, on a la sensation de mieux connaître la ville, de mieux voir ses structures, sa hiérarchie, et y compris au niveau de sa toponymie et au niveau de ses rues. Et la rue Saint-Jacques, c'est la colonne vertébrale de Paris. Et ce n'est pas une rue comme les autres, quoi. Ce n'est pas une petite rue, la rue Saint-Jacques. C'est la première d'entre elles, c'est la plus importante. C'est l'axe originel de Paris, un axe nord-sud, qui permettait d'aller au sud, d'aller vers l'Espagne, l'Italie, et de passer la Seine pour aller vers le nord et les confins de l'Empire romain, puisque la rue Saint-Jacques avant d'avoir été une rue, j'ai envie de dire une rue ancestrale pour les chevaux ou les mammouths qui allaient boire l'eau de la Seine, ça a surtout été la rue construite par les Romains pour y créer leur ville sur la rive gauche, sur la montagne Sainte-Geneviève, un peu en aplomb par rapport au niveau de la Seine.
Voilà. Vous redonnez une organisation aussi géographique.
Mais ouais, c'est passionnant de se dire, regardez, où est le centre de Paris en 1500 ? C'est marrant de se dire ça. Et moi, je me dis, ah bah d'accord, donc si j'ai envie de retrouver Paris au moment de la Renaissance, eh bah, je vais aller du côté de la rue Saint-Antoine. Si j'ai envie de retrouver le centre de Paris, le centre bouillonnant de Paris à l'époque de Louis XIII, donc vers 1610, 1620, 1640, eh bah, je vais aller du côté de la place des Vosges. Si j'ai envie de retrouver le centre de Paris en 1700, bah, je vais aller du côté du Pont-Neuf. Si j'ai envie de retrouver le centre de Paris en 1800, je vais aller du côté du Palais-Royal. Si j'ai envie de retrouver Paris... Associer un endroit géographique avec un grand moment, enfin, avec des moments de notre histoire, des siècles de notre histoire, ben c'est le meilleur moyen mémotechnique pour la retenir, quoi, puisque vous êtes dans votre observation là où vous êtes, et ben ce lieu où vous êtes géographiquement va vous inviter à retrouver une période où il a été central, essentiel, et il n'est plus perdu comme pourrait l'être aujourd'hui dans la confusion et dans le maillage de toutes ces rues.
Oui, vous avez raison de faire allusion à la mnémotechnie, parce que on associe des tiroirs, hein, c'est un moyen de retenir des notions nouvelles, c'est de les mettre dans des tiroirs concrets. Et vos tiroirs, vous, ben, ce sont des lieux de Paris, des rues de Paris,
les rues, ouais, voilà.
ou des stations de métro. Et ça peut devenir les tiroirs de chacun, et en particulier des jeunes, peut-être. Est-ce que vous avez une ambition pédagogique à travers ces trois ouvrages d'histoire ?
J'ai pas d'ambition pédagogique. Moi, j'ai simplement l'ambition de faire du bien et de distraire et de captiver d'attacher les gens avec leur ville, avec leur quartier et avec leur pays. Voilà, c'est simplement ça, mon ambition. Je sais pas si c'est pédagogique ou pas, mais j'espère que c'est un livre qui circulera, parce que il traite de quelque chose qui est inestimable, c'est notre patrimoine. Voilà, c'est tout simplement seulement ça, mon ambition.
Oui, mais c'est plus que le patrimoine, parce qu'en tressant histoire et géographie, vous tressez aussi passé et présent. Un exemple, la retraite détruite dans le réservoir de Montsouris.
Oui, il n'y en a plus. Ouais.
Bon, mais on croit parler du passé, puis tout d'un coup, non, on est dans le présent, puisqu'on est dans le plan Vigipirate, tout d'un coup. Au détour d'une phrase ou d'une page, on est propulsé dans le présent le plus immédiat.
Le réservoir Montsouris, qui est le réservoir d'eau potable le plus important de Paris. Donc il y avait des truites qui flottent, qui vivaient dedans et qui frayaient dedans. Et on les a, au nom du plan Vigipirate, pour des histoires de sécurité, on les a supprimées, on les a enlevées parce que c'était dangereux, des trucs d'empoisonnement ou j'en sais rien. Et on les a supprimées. C'est complètement absurde, quoi. Mais voilà, c'est le principe de précaution qui, par moments, dépasse un peu les bornes. Il n'y a plus de truites dans le réservoir de Montsouris. Bon, c'est dommage. Il y en a dans la Seine, donc ça va.
Oui, elles sont revenues dans la Seine.
Il y en a dans la Seine.
Donc tout va mieux. Donc merci infiniment, Laurent Deutsch, pour cette rencontre.
Merci de m'avoir écouté.